Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, bonjour. Une émission intitulée « Byzance et la transmission de la culture antique à l'Occident », à savoir le rôle de passeur que l'Empire byzantin joua dans ce processus si important pour nos sociétés modernes, celui de la réception par le monde occidental moderne de la culture de l'Antiquité. Pour en parler, nous recevons Sylvain Guggenheim, historien médiéviste, professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Sylvain Guggenheim, vos travaux portent essentiellement sur le Moyen-Âge en Occident. Cependant, certains d'entre eux témoignent d'un vif intérêt pour la transmission de la culture antique en Occident par Byzance. Alors, qu'en est-il au fait ?
Cette transmission a été importante. Tous les spécialistes de Byzance ont souligné que Byzance avait conservé une immense partie de la culture grecque, littéraire, philosophique, médicale, mathématique, etc. Et que tout ce que nous avons a été transmis par Byzance. Il y a un exemple très simple, hein, tous les volumes de la fameuse collection Budée, les bilingues grec-latin des œuvres grecques, le texte grec chaque fois est fait à partir des manuscrits qui ont été copiés à Byzance.
Alors, on va peut-être, si vous voulez, aller de manière un peu systématique pour poser les quelques jalons, si vous voulez, de la transmission de la culture antique dans l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge par l'Empire dit byzantin, qui d'ailleurs ne s'appelait pas byzantin, hein, c'est nous qui l'appelons comme ça, c'est l'Empire romain, c'est la suite. Donc, on voit que c'est la suite de l'Antiquité. Et l'apparition, en même temps, à partir d'un moment, et après les invasions dites barbares, en Occident, de nouveaux États. Comment ça s'organise en quelques mots ?
Du point de vue de l'Occident, une fois que l'Empire romain d'Occident s'effondre, vous avez toute une série d'États différents qui apparaissent et qui se constituent progressivement. Et comme vous l'avez dit, l'Empire romain continue puisque ceux que nous appelons les Byzantins se disent romains, se sont toujours appelés romains. Même après, dans les mouvements indépendantistes grecs au XIXe siècle, le terme de romain est toujours revendiqué. Et comme Byzance était dans la continuité de l'Empire romain antique, Byzance avait conservé, au moins dans le système scolaire, ce qu'on appelle la paideia, avait conservé comme socle de formation de ceux qui se rendaient à l'école, les bases de la littéraire de la culture antique, c'est-à-dire Homère, Hérodote, Thucydide.
Et de l'autre côté ?
Alors, de l'autre côté, le monde occidental a perdu très largement la connaissance du grec. Vous avez des isolats de population, par exemple en Catalogne, où il y a des gens qui parlent grec, mais qui sont très peu nombreux. Et la culture grecque fait une timide réapparition à l'époque carolingienne. Les biographes de Charlemagne et de Louis le Pieux, à l'époque, les biographes contemporains, Eginhard, Tégan, disent que Charlemagne et Louis le Pieux étaient capables de lire le grec. Bon, ce qu'on n'a jamais pu vérifier. Et on a quelques glossaires de termes grecs, on a des premiers travaux sur la langue grecque au 9e, 10e siècle. Mais on est encore très loin de redécouvrir, par les textes même, de manière directe, l'ensemble de la culture grecque. Alors que la culture latine avait été conservée.
Alors, je dois dire que vous avez écrit beaucoup de livres, mais il y en a un en particulier, évidemment, qui parle de cette transmission. C'est un ouvrage paru aux éditions du Cerf et sous le titre « La gloire des Grecs ». Et quand vous dites des Grecs, est-ce que vous donnez une notion de continuité à ce terme ou vous parlez de l'Antiquité ?
Non, je parle de l'Antiquité. En fait, l'expression « la gloire des Grecs » est empruntée à un texte de l'époque de Charles le Chauve, qui explique que la gloire des Grecs est la meilleure. Là, il faisait allusion au phénomène religieux. Et j'ai conservé l'expression. Et c'est effectivement tout ce qui vient du monde grec antique et hellénistique, conservé à Byzance et transmis au monde latin.
Alors, on va voir maintenant l'intérêt pour la culture antique dans cette culture d'antiquité tardive. Qui et comment la transmet ? Quand on parle de culture, est-ce que c'est seulement la culture livresque ou c'est aussi autre chose ? Enfin, les arts, l'architecture, etc.
Alors, il y a effectivement le domaine artistique qui vient s'ajouter à la culture livresque. Alors, si on regarde les choses du côté de Byzance, effectivement, tous les textes grecs antiques et hellénistiques donc avaient été conservés, ou l'immense majorité, mais s'il y avait eu quelques pertes. Et par ailleurs, il y a, à l'époque, des empereurs macédoniens notamment, donc pour nos éditeurs, disons, entre le 10e et 12e siècle, pour aller vite, il y a une mode dans les élites, notamment de Constantinople, de s'inspirer de thèmes, de figures mythologiques antiques. C'est une mode artistique, hein. Ça n'est pas forcément une inspiration très très profonde, et ça serait sans doute une erreur d'y voir une forme de néopaganisme. Mais les figures mythologiques restent dans des enluminures, dans des mosaïques, et d'ailleurs vont être transmises au monde latin aussi.
On le voit aussi dans la peinture. Et il y a,
on le voit dans la peinture. La seule chose, en fait, il y a ce qu'on appelle le psautier de Paris du Xe siècle, des enluminures absolument magnifiques. Il y a beaucoup de textes comme cela qui sont passés en Occident ou qui ont influencé des artistes occidentaux. Il y a une seule chose qui n'a finalement pas été transmise du point de vue artistique, ce sont les icônes. Il n'y a pas d'inspiration des icônes, à ma connaissance, dans le monde roman entre le Xe et le XIIIe siècle en Europe.
Parce qu'il n'y a pas eu réception peut-être théologique.
Et tout donc, à fait. Voilà. Ouais. Les icônes sont liées à une forme de spiritualité.
Il n'y a pas le support spirituel et théologique, ouais. Évidemment.
Tout à fait.
Alors bon, on en vient aussi un peu au rôle de l'Église. Des deux côtés d'ailleurs, je dirais, des centres monastiques aussi, ou les grandes bibliothèques patriarcales ou autres. Alors à Byzance, il y a des bibliothèques, pas comme aujourd'hui, ce n'est pas des bibliothèques d'État comme on le conçoit, mais il y a des bibliothèques impériales, des bibliothèques patriarcales, etc.
Voilà, tout à fait. C'est les deux plus importantes. Et c'est là qu'ont été conservés en fait l'essentiel des manuscrits antiques, même si on pouvait en trouver quelques autres ailleurs, à Thessalonique par exemple. Mais l'essentiel est venu, enfin a été conservé à la bibliothèque du patriarcat et la bibliothèque impériale, oui.
Et peu à peu plus tard, évidemment, dans les grands monastères, et puis il y a même des empereurs qui ont légué leur bibliothèque, leur fonds.
Hein, tout à fait.
Jean Cantacuzène a légué au monastère de Vatopédie, voilà. Oui, tout à fait. Alors, qui copie? Et
alors, qui copie? C'est une très bonne question. Des individus qui travaillent sur commande, des lettrés évidemment, qui copient directement ou qui font copier en faisant appel à des scribes. On a quelques noms de personnages. Il y a eu peu de copies dans le monde des moines, mais on connaît un moine, Éphrem, au Xe siècle, qui a copié des ouvrages de Plutarque, Thucydide, Polybe, quelques textes d'Aristote. L'un des plus grands copistes, et en fait l'un des plus grands ateliers de copistes, parce qu'il ne devait pas travailler sans doute tout seul, c'est au milieu du XIIe siècle, un certain Ioannikios, qu'on connaît comme grammairien, dont la vie ne me semble pas très très bien connue. Difficile de savoir s'il était clair laïque. Il aurait travaillé, entre autres, aussi en collaboration avec l'un des traducteurs directs du grec en latin, Bourgogno de Pise. Donc là, il y a des éléments qui sont vraiment importants. Il y a des copies qui ont été commandées dès le milieu du IXe siècle par le patriarche Phocios, qui avait une immense bibliothèque et qui a laissé justement un catalogue très impressionnant de, je crois, 257 ou 260 ouvrages qu'il détenait et dont on a perdu une partie d'ailleurs.
Et qui n'est pas la totalité, parce qu'il écrit au début à son frère qu'il fait des résumés de ce qu'il a lu en l'absence du frère pour faire plaisir au frère qui n'était pas là. Voilà ce qu'on a lu en ton absence. Oui. Ce qui veut dire que ce qu'il y a dans la bibliothèque n'est pas tout ce qu'il a lu.
Exactement. Et par exemple, dans ses bibliothèques ne figure pas Homère, alors qu'il est évident qu'il a lu Homère. Mais il ne le met pas parce que pour lui, ça va de soi.
Et puis là, voilà. Donc, Photius, qui était un grand homme d'État aussi, il faut dire, et qui était un patriarche, la personnalité très forte d'ailleurs, et qui a suscité en Occident plusieurs tensions, on va dire, même pour le dire gentiment. Et puis, évidemment, il y a son disciple Arétas.
Oui, Arétas qui a laissé beaucoup, enfin, dont on sait qu'il a fait copier, je ne sais pas s'il a copié lui-même, mais qui a fait copier beaucoup, beaucoup de manuscrits antiques, qui en a peut-être commenté quelques-uns, il faudrait le... revérifie ça, mais qui est, on peut dire,
oui, et puis il y a des notes aussi.
Très humaniste. Oui, voilà, il y a des notes sur des manuscrits de Platon, je crois, d'Arétas lui-même, voilà.
Tout à fait. Donc un archevêque de Cappadoce, il est devenu.
Oui.
Et là, on voit bien le rôle de certains ecclésiastiques qui sont les grands lettrés, c'est de vrais érudits.
On va le retrouver d'ailleurs à l'époque des paléologues. Il y a au XIIIe siècle, il y a un moine qui s'appelle Maxime Planude qui a édité les géographies de Ptolémée et qui a fait aussi des commentaires aux travaux mathématiques d'Euclide ou de Diophante sur les équations. Donc il y avait effectivement des moines qui étaient porteurs de culture.
Pour montrer donc que l'Église participe à cette transmission de manière tout à fait active. Alors, on fait une pause musicale maintenant avec un disque enregistré par l'ensemble Organum sous la direction de Marcel Pérez, avec la participation d'un chanteur byzantin célèbre qui n'est plus avec nous, mais qui a été un grand chanteur, Lycourgos Angelopoulos, et qui justement s'intitule « Chant de l'Église de Rome » de la période byzantine. Et on voit l'influence du chant byzantin sur le chant de Rome. Je lis un petit extrait du fascicule qui accompagne le CD. C'est rédigé par Marcel Pérez et c'est bien sûr très bien fait. Alors, l'ancien chant de l'église de Rome s'est formé au cours du 7e et du 8e siècle. Son caractère nettement oriental, qui lui donne l'aspect d'une cantilation ornée, n'est nullement surprenant lorsqu'on pense qu'à cette époque, l'Italie non seulement dépendait de l'Empire byzantin, mais encore fut une terre d'asile pour une importante colonie grecque venue s'y réfugier. Alors, ça va être un extrait de ce disque qui montre bien les liens, l'influence et les contacts. Et on revient à notre conversation. Un extrait des chants de l'église de Rome, de la période byzantine, par l'ensemble Organum, sous la direction de Marcel Pérez et avec la participation de Lycourgos Angelopoulos. Nous revenons à notre entretien avec Sylvain Guggenheim sur Byzance et la transmission de la culture antique à l'Occident. Alors, maintenant, on va parler un peu des cendres en Occident. Il y a des cendres en Occident et très souvent, ce sont des monastères d'ailleurs. Et parce que la transmission nécessite toujours deux pôles, hein, ça ne se fait pas d'un seul côté. Alors, qui, comment et pourquoi copie en Occident ?
Alors, il y a une curiosité culturelle pour la culture antique qui existe déjà dès l'époque carolingienne, qui s'accélère très nettement, du moins d'après les sources que nous avons, à partir en gros de l'époque de la première croisade. La grande époque de quête des manuscrits grecs anciens, c'est à peu près en gros entre 1080-1090 et 1180-1185 à peu près. Il y a des gens qui partent, si j'ose dire, tout seuls, du moins d'après ce qu'on peut savoir. Il y a des gens qui partent pour chercher des manuscrits, pour les traduire sur place, sur ordre du pape. Ça a été le cas de Borgogno de Pise, qui a traduit beaucoup de manuscrits religieux, de Basile de Césarée, de Grégoire de Nazianze, et également qui a traduit beaucoup d'ouvrages de Galien. Il y a des gens qui sont partis sur ordre des souverains normands de Sicile, et donc qui vont à Constantinople récupérer des manuscrits, traduire des manuscrits. Il y a des individus comme Jacques de Venise, qui est vraisemblablement un Vénitien de Constantinople et qui a été le premier traducteur de la métaphysique d'Aristote et qui l'a traduit directement du grec en latin et qui a dû traduire vraisemblablement sur place, hein, à Constantinople, mais qui devait venir du quartier vénitien de Constantinople. Et vous avez aussi des traducteurs anonymes. La métaphysique, par exemple, d'Aristote a été traduite au milieu du XIIe siècle ou dans les années 1150-1160 par au moins deux autres personnages que Jacques de Venise, mais dont on n'a pas les noms. Mais leur traduction circule sous le nom de métaphysique anonyma, la traduction anonyme de la métaphysique. Donc ça, on ne peut pas savoir s'ils allaient de leur propre volonté ou s'ils étaient envoyés en mission. Donc vous avez aussi en fait toute une série d'éléments qui viennent du fait que entre Constantinople et le monde occidental, ce qu'on oublie souvent quand on étudie le Moyen-Âge, vous avez énormément de gens qui circulent. Vous avez des ambassadeurs, Nicolas Drocourt a fait une thèse sur les ambassadeurs à Byzance qui est remarquable. Vous avez des marchands, vous avez des mercenaires, vous avez des pèlerins. Donc, il y a beaucoup de gens qui circulent. Alors, ils ne sont pas tous intéressés, évidemment, par la philosophie ou par la médecine. Encore pour la médecine, il pourrait y avoir un intérêt plus immédiat. Mais ils ont aussi rapporté des influences artistiques, bien évidemment. dans un certain nombre de monastères européens, ou auprès de certains clercs européens, on a donc copié des manuscrits ou on les a commentés. Et c'est ce qui est arrivé notamment, il y en a beaucoup en Normandie, il y en a eu au Mont-Saint-Michel, il y en a à Coutances également. On a un théologien célèbre du XIIe siècle, Jean de Salisbury, qui, dans les années 1160, écrit à l'archidiacre de Coutances, on a la lettre, et qui dit dans cette lettre, voilà, j'ai des traductions d'Aristote qui ne sont pas excellentes, notamment d'un texte important pour construire des raisonnements, les seconds analytiques, et qui dit, voilà, je voudrais bien avoir une autre traduction que tu as, et je voudrais aussi avoir des commentaires que tu as. Ça, on ne sait pas si les commentaires ont été faits par des moines à Coutances ou si c'est la traduction de commentaires faits par des Grecs byzantins eux-mêmes et qui auraient été transmis en Normandie. On sait que dans l'entourage d'Anne Komnène, ça a été étudié notamment par Michel Kakouros, vous avez des lettrés byzantins qui ont littéralement inventé la méthode du commentaire de documents. Au lieu d'écrire sur les manuscrits des petites remarques en notes, en glose, ils ont composé des commentaires qui formaient des livres à part, comme nous maintenant nous faisons des livres à part du texte original. Et ça se fait dans les années 1110-1120, donc très très tôt. Et il est possible que certains de ces commentaires, on en a des traces, en tout cas soient parvenus aussi en Occident.
Alors, dans ce cas, nous avons des textes grecs qui parviennent en Occident. Bon, la connaissance du grec n'est pas très développée en Occident, ou pas du tout parfois même. On traduit donc en latin. Et on passe du grec au latin directement. Alors, il y a aussi des textes qui circulent à partir du Moyen-Âge, évidemment, en Europe, qui sont des textes presque toujours à Aristote, et qui, eux, sont passés par une autre voie complètement, hein, qui est la voie arabe, puisqu'ils sont en Europe aussi, et ils ont de très grands savants qui travaillent sur la philosophie, avec des commentaires. Mais là, nous avons des traductions. D'abord, évidemment, il n'y a pas toute la culture, hein, parce que je pense qu'il n'y a pratiquement que de l'Aristote. Hein.
Le monde arabe a traduit, a utilisé en fait tout ce qui était scientifique, dans Aristote tout ce qui était logique, notamment. Alors il y a l'absence dans le monde arabe à ma connaissance en fait de la littérature, de la mythologie grecque, ce qui peut se comprendre dans le cadre d'un monothéisme qui finalement n'a pas trop besoin de véhiculer les légendes des dieux de l'Olympe. Et le traité politique d'Aristote à ma connaissance non plus n'a pas été traduit, ce qui se comprend pour des raisons politiques. Le califat, pour aller vite, c'est un empire, et le traité politique d'Aristote explique comment peuvent fonctionner des cités-états. Et donc, on est dans un univers politique complètement différent. Donc, on peut comprendre qu'il n'ait pas eu besoin, pour des raisons politiques, de le traduire.
D'accord. Et puis là, il y a aussi une autre question, je dirais plus philologique peut-être, celle de plusieurs tranches de traduction. Parce qu'on ne passe pas directement du grec au latin, puisque ces textes finissent, mais, par le moyen des Arabes, finissent en latin, évidemment. Mais auparavant, ils ont été traduits en syriaque la plupart du temps, puis en arabe, voilà. Puis en latin.
Voilà.
Donc oui. Plusieurs couches de traduction qui parfois, évidemment, font apparaître une pensée peut-être différente, parce que nous savons que chaque traduction est quand même une interprétation. Hein,
oui, on a des exemples. Il y a des articles de savants, là, contemporains, qui ont analysé les déformations qui avaient lieu à la suite de ces séries de traductions successives. Alors, d'un autre côté, il faut aussi être honnête, c'est-à-dire que les traductions du grec en latin ont souvent été, au départ, en fait, des traductions mot à mot maladroites.
Ils ne sont d'ailleurs, pas toujours de la meilleure.
Et d'ailleurs, Jean de Salisbury réclame des traductions meilleures. Il arrive à se rendre compte que la traduction ne va pas et il veut une traduction meilleure. Les traducteurs sont améliorés au fil des décennies.
D'ailleurs, nous savons très bien qu'au moment de l'iconoclasme, chez Charlemagne, dans la cour de Charlemagne, les théologiens traduisent mal et ça conduit à des quiproquos théologiques qui ont causé beaucoup d'ennuis. Alors évidemment, la qualité de la traduction est toujours quelque chose de très important. Alors, vous avez parlé de la transmission. Alors, ce mouvement, est-ce qu'on peut parler de mouvement déjà à cette époque-là, autour du 10e, 11e siècle, etc., ou ce sont, d'une manière générale, des cas particuliers?
Je dirais que c'est un ensemble de cas particuliers. Ça n'est pas un mouvement au sens où il n'y a pas eu un pôle moteur qui a tout organisé, mais il y a une série de convergences de cas particuliers. Ça se voit dans la transmission, si on peut en dire un mot, des œuvres d'art. Il y a très clairement les spécialistes d'histoire de l'art. Je pense aux travaux d'Elisabeth Verniol, Patricia Stiernemann, Philippe Planieux, etc. ont bien montré que 11e, 12e, 13e siècle, il y a une très très forte influence de notamment de la peinture byzantine. Alors on le sait pour Venise, Venise, c'est évident, mais c'est vrai aussi dans le cas de fresques à Cluny, dans la cathédrale du Puy, c'est vrai dans des enluminures, c'est vrai dans des travaux d'orfèvrerie aussi dans la Belgique actuelle, si on veut. C'est vrai aussi, je pense à un autre orfèvre, Nicolas de Verdun, etc. Il y a, à l'époque romane, il y a vraiment une très très forte influence artistique du monde byzantin dans le monde roman, particulièrement en France, mais en Allemagne aussi, importante. En France, ça se voit aussi dans les littératures. Chrétien de Troyes, où toute la production littéraire de la cour de Champagne, où on crée des romans, on écrit des romans, et ces romans sont souvent les décalques ou de romans grecs antiques ou hellénistiques, ou de romans byzantins, où on pourcadre la cour byzantine. Donc il y a un attrait pour ce monde byzantin et pour la culture qui en vient.
Alors ça va devenir un mouvement hein, plus tard.
Oui.
Après la quatrième croisade, on va dire, après l'occupation de Constantinople par les Latins, et même le retour des Byzantins à Constantinople, et puis toute cette fuite lente du savoir byzantin, donc antique aussi, hein, dans cette tradition, pendant la période des paléologues à Byzance. Il y a certaines étapes comme ça, le Concile de Florence, par exemple, qui est une grande étape. Ouais.
Il y a énormément de manuscrits, ça on le sait, qui arrivent au fur et à mesure que l'Empire byzantin se rétracte face aux guerres qui sont remportées par les Turcs. Et des gens comme Manuel Chrysoloras, comme Bessarion, qui devient catholique, hein, qui change de religion, mais qui apporte tous ces manuscrits. Et on pense,
qui a légué sa bibliothèque
à Venise. Et à ce moment-là, on sait qu'au XVe siècle, une très grande partie à ce moment-là des manuscrits grecs conservés jusque-là à Byzance arrivent en Europe. Mais là, c'est vraiment lié à un contexte géopolitique tout à fait particulier.
Écoutez, le sujet est passionnant et puis évidemment, bon, il faut lire votre livre, donc La gloire des Grecs, paru au Cerf en 2017, et puis travailler beaucoup sur cette question merveilleuse de la transmission du savoir antique et sur le rôle de Byzance là-dedans, et en particulier l'Église byzantine qui a tellement contribué à cette transmission. Sylvain Guggenheim, merci. C'était Byzance et la transmission de la culture antique à l'Occident. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Nicolas Depagraf. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant, par Jean-Luc Gadreau. Oh.